Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a une chose qui est claire depuis le début de la pandémie, c'est que les cas de détresse ou de problèmes de santé mentale ou juste un petit blues, les petits coups de blues, tous ces cas-là ont vraiment augmenté. Personnellement, je connais personne dans mon entourage qui a pas au moins eu des passages à vide, mais c'est pas tout le monde qui en parle et qui en parle publiquement. C'est pour ça que je suis vraiment très fière de cette collègue qui est journaliste au Journal de Montréal et qui travaille pour différentes plateformes de Québécois, Elisabeth Ménard, qui est mon ancienne patronne, qui a pris la plume pour raconter ce qui lui est arrivé au cours des dernières semaines, des derniers mois. Elisabeth, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Elisabeth, je te trouve très courageuse et tu fais œuvre utile, pour reprendre une expression populaire, avec ton texte qui est publié sur le site du 24heures.ca et qui s'intitule « J'avais honte, mais ça finit bien, promis ». Alors, c'est un titre très accrocheur. De quoi avais-tu honte, Elisabeth?
Ah, c'est une grande question. Ça va être difficile de répondre à ça. J'avais honte... Je savais pas ce qui m'arrivait. J'avais honte parce que j'arrivais plus à travailler. J'arrivais plus à me concentrer. J'arrivais plus à écrire. Et puis, écrire, c'est mon métier. C'est, d'ailleurs, je pense, mon seul réel talent. Et je n'arrivais plus à le faire. Et j'étais pas capable de m'expliquer pourquoi. Et j'avais l'impression d'être paresseuse. Je me suis dit, coudon, est-ce que c'est juste parce que je n'ai plus envie de travailler? Et j'ai été vraiment criblée de honte et de culpabilité de plus être capable d'exercer mon métier, de plus avoir envie de rien. Alors que, comme je l'explique bien dans mon texte, je suis quelqu'un d'assez privilégié. Je suis bien entourée, j'ai un toit sur la tête, j'ai pas perdu mes revenus avec la pandémie, j'ai pas été évincée de mon appartement, j'ai pas perdu mon emploi, j'ai accès à des avantages sociaux. Tout le monde est en santé autour de moi, personne n'est mort de la COVID, donc pourquoi je vais mal? J'avais honte d'aller mal.
Ça, c'est très important, ce que tu viens de mentionner, Elisabeth, parce que tout le monde peut dire, bon, ben, c'est évident que quelqu'un qui a, par exemple, perdu un proche à la COVID, c'est normal, entre guillemets, d'être déprimé. Quelqu'un qui a perdu sa job à cause de la COVID ou qui a vu ses revenus diminuer, enfin, pour la COVID, on dit, ben, c'est normal, entre guillemets, d'être déprimé. Donc, toi, vu que tu ne correspondais à aucune de ces catégories-là, tu te sentais privilégiée, mais ça n'empêche pas que tu ressentais une sorte de vide. Et la façon dont tu le décris, c'est comme un espèce de brouillard dans ta tête, comme une l'impression un petit peu de naviguer dans le vide.
C'est exactement ça, c'est bien dit, Sophie. C'est vraiment, j'arrivais pas à mettre les mots sur qu'est-ce qui m'arrivait. Est-ce que j'étais déprimée? Pas certaine, parce que je passais pas mes journées à pleurer, j'étais pas particulièrement triste, j'avais juste pas de bonheur. Je comprenais pas pourquoi. Et puis c'est vraiment quand il y a eu des manifestations plus physiques que je me suis inquiétée. Je dis physique, en fait, quand je me suis rendu compte que je commençais à faire des fautes dans les textes que j'écrivais, alors que vraiment c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Là, je me suis inquiétée. Là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Puis j'ai appelé mon médecin, en fait.
Et ton médecin, toi, tu te disais, bon, ben, c'est soit une dépression, soit un burn-out. Et là, ton médecin te dit quoi quand tu l'appelles? D'abord, t'es chanceuse de pouvoir parler à un médecin assez rapidement, là. Au Québec, en 2021, là, je te trouve chanceuse, mais bon.
Oui, ça c'est un autre point intéressant. Je vais répondre à ta question, mais je suis très consciente que j'ai aussi le privilège d'avoir accès à un médecin de famille qui me connaît bien, qui suit toute ma famille depuis longtemps, et puis j'ai été capable d'avoir un rendez-vous dans la journée, ce qui est extraordinaire. Donc oui, j'ai beaucoup de chance. Mon médecin, donc le pour répondre à ta question, le diagnostic premier, ça a été trouble d'adaptation avec humeur mixte. Et là, à la base, je savais pas trop ce que ça voulait dire, parce qu'on s'entend, l'entretien, là, ça s'est fait super rapidement, ça s'est fait au téléphone, c'est très froid, t'es là au téléphone, puis je pleurais un peu, puis je disais, je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à travailler, puis là, ben, arrête de travailler, mais tu vois même pas quelqu'un en face, hein, parce qu'à cause de la COVID, on a préféré, on a fait l'entretien, j'étais assise dans mon auto dans le stationnement. Donc, trouble d'adaptation avec humeur mixte, ce que ça veut dire, ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que non, c'était pas une dépression ni un burn-out. C'était vraiment un trouble d'adaptation, une difficulté à m'adapter à des événements nouveaux ou difficiles, la pandémie. Donc,
en fait, c'est particulier parce que ça s'appelle la COVID et un sentiment que beaucoup de gens ont depuis le début, c'est ce sentiment de vide. Puis je veux pas faire de l'analyse psychanalytique à cinq scènes, mais je trouve que ce mot-là, le vide ou l'impression de patauger dans le beurre, ça décrit bien ce que beaucoup de gens ont ressenti. Puis je t'en parle, Elisabeth, parce que bon, on se connaît, t'as été ma patronne pendant longtemps au Journal de Montréal. Et je peux te le dire, je peux le dire publiquement aujourd'hui, c'est un sentiment que j'ai ressenti à plusieurs reprises au cours des derniers mois, puis je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent, Elisabeth, qui, sous une forme ou une autre, ont ressenti cette espèce de patente-là, on sait pas trop c'est quoi, c'est pas vraiment une dépression, c'est pas nécessairement des pleurs, mais c'est juste, on a l'impression que notre cerveau, il y a quelqu'un qui est venu jouer dedans, puis qu'on n'a plus la maîtrise de ce qu'on fait d'habitude.
En fait, je trouve la personne qui a le mieux décrit ce sentiment-là, c'est le psychologue américain Adam Grant. Dans son texte du New York Times, il y a environ deux semaines, il a publié un texte sur ce qu'il appelle la langueur, le languishing en anglais. Mm-hmm. C'est ce sentiment justement de vide et de stagnation. Puis moi, quand ça a été publié, j'ai eu une révélation. Huh. Wow, mais c'est ça! Waouh, je suis pas seule. C'est vraiment, quand la COVID
c'est pour ça que t'as écrit ton texte. C'est pour ça aussi que t'as écrit ton texte.
C'est parce que, en fait, en commençant à en parler un petit peu plus autour de moi, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas seule et qu'en fait, 9 fois sur 10, on me disait c'est pareil pour moi. Je me sens pareil. Donc ça, je me suis dit, ben peut-être que je pourrais, comme tu dis, faire œuvre utile et en parler plus publiquement pour lancer le message que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je me sens comme ça. Puis lâchez pas parce que ça a une fin qui va arriver plus tôt que tard, je l'espère.
Oui. oui. Mais toi, tu as eu la chance, puis je tiens à le souligner, parce que bon, toi et moi, on a beau travailler pour la même entreprise, on n'a pas le même statut, donc toi, tu es une permanente, donc tu as pu te mettre en arrêt de travail. Beaucoup de gens qui nous écoutent sont des pigistes, comme moi, travailleurs autonomes, soit à la tête de leur propre entreprise, ou simplement travaillent pour des compagnies où ils n'ont pas justement droit à ça, ou travaillent à leur propre... pour leur propre entreprise. Donc, tu as eu du temps. Tu as pu prendre du temps pour toi. Ça t'a pris combien de temps, tu dirais, avant de commencer à reprendre le dessus sur ton sentiment, donc, de languishing, là, de langueur?
Je dirais que c'est... Vraiment, reprendre le dessus, là, ça s'est fait... Après mon retour au travail, ça s'est fait tout récemment. Oui. C'est un work in progress. Hein. C'est quelque chose qui... je suis revenue au travail, premièrement parce qu'au niveau de l'énergie, je me sentais quand même mieux. J'ai eu de la médication pour m'aider là-dessus. Puis parce que, fallait bien que je revienne au travail aussi, que je me disais...
On s'ennuyait de toi.
Éternellement comme ça. puis c'est vraiment, je dirais... Les premières semaines, j'ai fait un retour progressif. Première semaine, j'étais presque paniquée. Et puis, tranquillement, pas vite, en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, ça a été la réaction de mes collègues patrons de mon employeur. J'ai la très grande chance d'avoir des patrons qui ont compris, qui ont été très compréhensifs face à la situation. Puis, ça m'a beaucoup aidée à déculpabiliser puis à faire un retour en douceur. Puis ça, c'est hyper important, puis c'est vraiment un message que je veux lancer, c'est que on le lit partout, là, que bon, les burn-out, la santé mentale, c'est difficile en ce moment, mais les employeurs ont vraiment un travail à faire là-dessus pour être compréhensifs envers leurs employés. Le télétravail avec les enfants à la maison, je le sais, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi qui est à la maison chaque fois qu'il coule du nez, c'est l'enfer. C'est l'enfer, puis il faut que les employeurs comprennent que leurs employés font face à des situations extrêmement difficiles qui ne sont pas dans un contexte où ils peuvent performer. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils donnent le même rendement qu'avant la pandémie, je pense.
Oui, ça c'est très important. Puis je me rappelle d'ailleurs un texte que tu avais écrit. Il y avait même une photo où on te voyait comme dans une sorte de placard à balai quasiment. Puis tu racontais que ton fils qui était tout petit, ben il comprenait pas lui pourquoi maman était là, mais elle n'était pas là. C'est-à-dire que t'étais là physiquement, mais tu ne pouvais pas t'occuper de lui. Puis c'est déchirant parce que bon, ben toi t'en as un, il y a des gens qui en ont deux, trois, quatre, et c'est extrêmement difficile. Et je veux revenir sur un mot que tu as utilisé, Elisabeth, c'est le mot culpabilité et je veux pas faire, encore une fois, de la psychologie à Saint-Saëns, mais quand on est une femme, on a tendance, en général, à être très familière avec ce sentiment-là de culpabilité, a fortiori quand on est une maman, puis tu sais, c'est la fête des mères dimanche, on va avoir sûrement droit à des petits colliers en macaroni, mais c'est bien le fun, mais vient avec la maternité, quand t'expulses le placenta, vient aussi très souvent un sentiment de culpabilité. Est-ce que toi, à un moment donné, tu te sentais coupable, par exemple, de ne pas être capable de prendre soin de ton petit gars aussi bien que tu aurais le voulu parce que tu étais envahie par ce sentiment de langueur?
Ah, mais tellement, là. Puis tu le dis bien, là, je pense que le jour où j'ai accouché, la culpabilité est arrivée avec l'enfant. C'est vraiment frappant. Puis oui, il y a plein de choses par rapport à l'éducation de mon fils en ce moment avec la pandémie dont je me sens coupable. Quand on est pogné pour le garder à la maison pendant une semaine parce qu'il a un rhume, mais qu'on peut pas s'absenter du travail parce qu'à un moment donné, on a une hypothèque à payer, ben qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la télé. Puis oui. Ça, j'haïs ça. Mon fils commence à me demander le téléphone, commence à faire des crises pour avoir le téléphone ou la télé, alors qu'avant d'avoir un enfant, je m'étais dit jamais, jamais, jamais. Mais on est dans une situation où c'est les gens qui ont des enfants le savent, là, travailler avec un enfant de 2 ans et demi, c'est impossible. C'est impossible. Oui. Il demande si c'est un enfant unique.
Oui, oui. Puis en plus, il est, bon, c'est ça, 2 ans et demi, là, c'est les terrible twos, puis après, ça va être les horrible three. Mais compte-toi chanceuse d'une certaine façon, ma belle Elisabeth, parce que quand il va être ado, ça va être les jeux vidéo, donc...
ouais. Bon. C'est une paire de manches.
Une autre paire de manches. Écoute, je veux revenir parce que t'es une femme de mots. Bon, t'es journaliste, c'est ton métier, c'est d'écrire. Je veux réfléchir avec toi à voix haute, Elisabeth, à l'importance de mettre des mots sur ce qu'on ressent et l'importance, quand on écrit un texte comme celui que tu as écrit, l'impact que ça va avoir sur les gens qui vont le lire. Qu'est-ce que tu souhaites avec la publication de ce texte-là?
À la base, vraiment, ce que je souhaite, c'est que les gens sachent qu'ils sont pas seuls à se sentir comme ça. Parce que je pense que ça enlève une couche de culpabilité. Moi, je suis partie de mon expérience personnelle, puis j'ai décidé d'en parler publiquement, pas parce que je pensais que c'était passionnant, mais vraiment parce que je me suis dit, je pense que il y a des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Puis moi, si j'avais lu ça, je pense que je me serais sentie moins seule aussi. Puis c'est aussi ça, j'ai lu sur les réseaux sociaux moi je suivais Juliette Bélanger qui est une productrice de contenu qui parle beaucoup de santé mentale. Il y a eu une publication en particulier où elle parlait de la baisse de motivation puis que c'était normal de ressentir ça parce que c'était une réaction à une adaptation rapide et forcée à la pandémie. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a comme « Ah, OK, c'est normal, je suis pas seule. » Puis c'était le but de mon texte, c'était d'envoyer un message aux gens puis de leur dire, même si vous êtes pas dans la rue, même si vous êtes pas parmi les gens les plus vulnérables, ça se peut que vous aussi, vous vous sentiez mal. Ça se peut que vous aussi, vous ayez vos propres difficultés, vos propres souffrances. Puis la première des choses à faire pour aller mieux, c'est d'accepter qu'on se sent comme ça, que c'est normal, et de pas se sentir coupable de ça. Puis une fois qu'on se débarrasse, une fois qu'on arrête d'être en lutte contre nous-mêmes, contre nos propres émotions, on peut, à ce moment-là, explorer c'est quoi nos zones de pouvoir pour aller mieux.
Tout à fait. Écoute, je suis très contente. De toute façon, le titre de ton texte le dit bien. Ça finit bien, promis. En effet, ton histoire finit bien. Puis c'est important aussi d'envoyer ce message d'espoir, comme quoi, ben, il y a une lumière au bout du tunnel. De toute façon, on le voit aussi avec la vaccination, ça va mieux. Un des éléments de cette pandémie, c'est que on a la difficulté à se projeter. Or, l'être humain a besoin de ça. On a besoin de se projeter en disant, oh, ben, dans un mois, je vais pouvoir aller manger au restaurant avec des amis. Dans deux mois, je vais pouvoir voyager. Dans six mois, je vais pouvoir prendre ma mère dans ses bras. Et là, ce que la pandémie a provoqué, c'est cette absence de projection. Donc, est-ce que tu penses que, justement, le fait que les nouvelles soient bonnes, que la vaccination avance vraiment très rapidement, que ça peut contribuer à un mieux-être, justement, sur les gens qui sont pognés avec cette langueur?
Définitivement. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que ce qu'on a appris, justement, avec la pandémie, c'est qu'on n'est probablement pas au bout de nos surprises. En ce moment, il y a de l'espoir, puis il faut se permettre cet espoir-là. Mais c'est sûr que moi, je veux pas être déprimante, mais j'ai des moments où je me dis, mon Dieu, mais on s'en sortira jamais. Là, je voyais cette semaine des nouvelles études qui concluent que les vaccins seraient très efficaces contre les nouveaux variants. Oui. Je me suis réjouie. Moi, je me fais des favoris sur mon ordinateur avec des bonnes nouvelles.
Quelle bonne idée! Ah, c'est bon!
Des bonnes nouvelles sur la vaccination, sur la baisse des cas. Puis là, des fois, quand je suis dans un schéma de pensée trop négatif, là, on s'en sortira jamais. Ben, je m'en vais relire ça, puis ça me donne un peu d'espoir.
J'adore ça!
Il faut permettre cet espoir-là.
C'est très bon. Écoute, on devrait suggérer à nos collègues de Québecor, que ce soit au Journal de Montréal ou 24 heures, d'avoir chaque jour dans le journal une section « Bonnes nouvelles ». Comme ça, les gens pourront naviguer à travers toutes les mauvaises nouvelles, mais juste avoir une section pour se remonter le moral, les chiffres de vaccination, comme hier. Mm-hmm. Ce matin, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a annoncé qu'hier, on avait battu un record. Je pense qu'on a vacciné dans la même journée 102 ou 103 000 personnes. Alors, on va s'accrocher aux bonnes nouvelles. Élisabeth, je te remercie vraiment pour cette entrevue puis aussi pour ce texte. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Quand on est tout seul, puis on se désole. Quand on se compare, ben on se console en se disant, bon, ben je suis pas toute seule dans ce bateau-là. Je rappelle que le titre de ton texte s'intitule « Hey, quand t'étais ma patronne, je pense que tu m'aurais fait corriger ça, cette phrase-là. Le titre de ton texte, c'est « J'avais honte, mais ça finit bien, promis, je vous encourage à aller lire ça sur le site de 24 heures. » Merci beaucoup, Élisabeth, puis bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup, Sophie. Je veux juste prendre encore un peu de ton temps pour rectifier quelque chose. Je suis maintenant employée du 24 heures et pas du Journal de Montréal. Je trouve ça important de le dire parce qu'on a des projets extraordinaires au 24 heures. Fait que j'encourage tout le monde à aller sur notre site web.
OK, ben c'est parfait. OK, ben c'est l'information qu'on m'avait donnée. Donc, c'est bien important de le corriger. Merci beaucoup, Élisabeth.
Merci. Bonne journée.